Chers frères et sœurs, c'est un vrai plaisir de me retrouver avec Jocelyne parmi vous après une escapade à l'ouest de la France. C'est un plaisir aussi de me retrouver dans des travaux qui avancent et d'envisager le retour dans nos locaux, même si j'avoue que j'ai appris à aimer ce beau temple et nous avons fait un petit peu de ce temple un autre chez nous. Et j'en suis très reconnaissant à la paroisse Saint-Martin. Je vous propose aujourd'hui le récit de la tentation de Jésus au désert. C'est un récit célèbre. D'ailleurs, il a été lu en étude biblique mercredi. Il est surtout célèbre par la fin du dialogue entre Jésus et Satan, puisque Jésus dit à Satan « Va-t'en ». Arrière de moi, Satan, ce qu'en latin on dit vader retro Satanas, qui est peut-être plus connu en latin qu'en français presque. Cette phrase est aussi d'ailleurs répétée à l'apôtre Pierre, dans le même évangile, lorsque Pierre sous-entend à Jésus qu'il n'est pas raisonnable qu'il se fasse arrêter au risque de se faire mettre à mort. Et là, Jésus s'adresse à Pierre avec les mêmes mots, « Va-t'en, Satan !» Je vous propose de lire le récit, donc c'est dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, que nous lisons cette année, chapitre 4, verset 1. « Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit « Il est aussi écrit « Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit « Va-t'en, Satan, car il est écrit « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir. Fin de la lecture. Jésus, qui a connu l'affection de sa mère et de Joseph, qui a été salué, honoré, annoncé comme le Messie, baptisé par Jean le Baptiste au milieu d'une foule attentive, Jésus, le voici au désert. Une étendue, une campagne, on pourrait traduire le voici au milieu de nulle part. Le désert, un lieu de dénuement. Et Jésus n'y mangera pas pendant presque un mois et demi. Certes, le chiffre 40 dans la Bible, et je ne vais pas vous citer toutes les fois, elles nous reviennent tous en mémoire, les 40 ans de pérégrination dans le désert, par exemple. Mais il y en a tant d'autres. Le chiffre 40 exprime une durée définie, importante, significative, de quelque chose d'important. Mais c'est long. C'est un jeûne très long. Lieu de dénuement pour Jésus. Lieu de solitude, Jésus n'est plus entouré de ses disciples, de ses premiers, tout premiers disciples. Jésus n'est plus entouré de sa famille. Jésus n'est plus avec Jean-Baptiste. Jésus est seul, désert, lieu de solitude. On ne peut pas distraire son ennui en discutant dans ce désert de solitude. On ne peut pas se dissimuler derrière les autres. On est face à soi-même, sans se leurrer, sans pouvoir se cacher. Le désert, un lieu de réalité. La faim ne peut pas être trompée en faisant un petit tour dans la cuisine, en ouvrant le frigo quelques secondes. Si on a mal à la jambe, il faut affronter ce mal, on ne peut pas aller se faire soigner. On ne peut pas s'affaler dans un fauteuil douillet. Le corps se fait sentir. Les éléments comme le froid, la pluie, la chaleur, le vent, nous font sentir que nous sommes à leur merci dans ce désert de réalité. Et c'est là que Jésus se tient. Sans arrière-garde, sans protection. Mais pourquoi l'Esprit de Dieu l'a-t-il ? Parce que c'est l'Esprit de Dieu, nous dit le texte, qu'il a amené à cet endroit. Pourquoi l'a-t-il amené à cet endroit ? Qu'y avait-il de si important à faire ? Pour que nous voyions qui est vraiment Jésus. Car c'est un Jésus extraordinaire que nous voyons dans ce récit. Nous le voyons affamé, nous le voyons affaibli, à la merci du premier prédateur. Nous le voyons dénué de tout, isolé. Il va avoir toutes les raisons pour céder aux pièges, aux tentations que Satan va lui donner, aux pièges que Satan va lui tendre. Il serait légitime qu'il tombe, mais il ne va pas tomber. Nous voyons Jésus n'ayant que sa personne dans cette étendue, sans artifice religieux, sans aucun atout en main. Il n'usera d'aucun geste miraculeux à ce moment-là. Et nous voyons Jésus opposé aux propositions captieuses du diable l'arme que rien ne lui a retirée. La perfection. Jésus va être parfait du début à la fin de cette histoire. Jésus se révèle à ce moment comme sans défaut, sans faille, parfaitement imperméable au péché qui l'assaille pourtant. Lui ne connaît pas la douloureuse fatalité qui nous touche tous, du mal qui sourd dans nos cœurs. Si l'Esprit a conduit Jésus au désert, c'est pour que nous le voyions tel qu'il est, dans son humanité parfaite. Ce Jésus au désert est à mes yeux, à nos yeux, aussi glorieux que le Jésus qui a aveuglé Jean de sa gloire. Nous avons ce récit dans le début du livre de l'Apocalypse. Jean était terrassé devant le Jésus de gloire. Nous sommes terrassés devant la gloire de ce Jésus parfait, qui dans le dénuement a été parfait. C'est ce Jésus sans faille, sans aucune faute, qui prendra les nôtres sur lui et en paiera le prix devant la justice divine. Mais Jésus, dans le dénuement du désert, nous donne aussi une leçon magnifique que jamais nous ne parviendrons à mettre totalement en œuvre, mais qui va nous servir de modèle. Car la manière dont Jésus a résisté à la tentation peut nous servir de leçon, de modèle. Le désert, tout d'abord, reprenons cette situation de dénuement, de solitude, de réalité, ne nous est pas familière. Nous aimons. La nature a horreur du vide. Lorsque je suis au volant, j'allume la radio. Si j'ai une radio dans la voiture, je sais pas. Je suis sous la douche, j'écoute de la musique. J'arrive dans un endroit retiré. Quel est mon réflexe? Je regarde s'il y a du réseau. Je crains les fins de mois difficiles, le vide de mon porte-monnaie. J'ai peur de tomber malade. Je me laisse aller au découragement. Toutes sortes de circonstances qui équivalent, grosso modo, à ce désert dans lequel Jésus a été amené par l'Esprit Saint. Des circonstances de dénuement, de solitude, de réalité lourde à porter, que nous traversons plus ou moins bien. Quelle est la première des le premier des constats qui est fait? C'est qu'après avoir jeûné tous ces jours, Jésus a eu faim. Et c'est sur cette faim que va porter la première des attaques de Satan. Je vais relire, c'est le verset 3. Le tentateur vint lui dire, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il était légitime pour Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, de vouloir manger après un si long jeûne. Et la solution proposée par Satan était honorable. Mais tu es fils de Dieu, tu maîtrises les éléments. Quelques pierres, ce n'est pas difficile pour toi de les transformer en pain et puis de manger. Et l'affaire est faite. Une solution honorable de mettre la puissance que Jésus avait entre les mains en lui-même au service de sa santé, de son bien-être. Mais Jésus, dans sa mission, allait gravement nuire à sa santé, puisqu'il allait être flagellé et crucifié. Sa santé passait après la mission qu'il s'était fixée en répondant à l'appel du Père Céleste. Et si Jésus avait obtempéré, s'il avait suivi le conseil de Satan, il aurait ouvert une brèche au tentateur en accédant à sa proposition. Ce dernier l'aurait conduit à se préserver finalement de sa mission qui allait nuire à sa santé. Jésus a tenu bon et n'a pas voulu donner la moindre brèche à ce tentateur qui lui disait « Prends soin de toi, prends soin de toi. Mets ta puissance au service de ton bien-être. C'est tellement facile, tu es le Fils de Dieu. » De même, prenons garde à la manière dont nous considérons nos besoins ou nos désirs. Ne cherchons pas à les satisfaire aveuglément, sans prendre du recul, de la hauteur. Notre société cherche à répondre à tous les besoins, et même elle en crée pour pouvoir y répondre, à nos frais, bien entendu. Non qu'il soit mauvais de manger à sa faim ou de boire une eau pure. Je ne suis pas le dernier à apprécier un bon repas, un bon verre, bien sûr. Mais si l'on est conditionné au point d'être malheureux, si l'on n'a pas le dernier téléphone, si on n'a pas le meilleur restaurant, si on n'a pas point de suspension complété, alors nous nous éloignons de l'exemple de Jésus de manière préjudiciable. En tant que chrétiens, nous savons que la satisfaction de nos besoins, même légitimes, reste seconde par rapport à la vie avec Dieu. C'est ce que vient de nous dire la réponse que Jésus fait à Satan, rendue célèbre par un chant que j'ai et que vous avez, je pense, aussi dans l'oreille. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui nous passionne? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Est-ce que c'est le pain ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est être rassasié de tout ce dont j'ai envie? Ou est-ce que c'est être inondé de l'amour de Dieu? Parfois, les deux ne s'opposent pas. Parfois, les deux s'opposent. Deuxième piège que Satan tend à Jésus. Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Ça, c'est quelque chose qui m'a longtemps intrigué. Autant pour la faim, je comprends. Jésus avait faim, Satan lui tend un piège sur la faim. Mais là, ça sert à quoi d'aller sur le haut du temple et de se jeter en bas pour voir s'il y a des anges qui vont m'empêcher de m'écraser au sol? La troisième tentation, je vais aussi la comprendre, parce qu'il s'agira de dominer sur le monde. On a tous envie de dominer, d'être les plus grands, etc. Mais la deuxième tentation, celle que je viens de lire, à quoi ça sert? Si Jésus obtempère, si Jésus dit, je vais essayer, pour bien voir que je suis gardé bel et bien. Alors, on peut supposer que les anges, effectivement, protégeront Jésus, on ne sait pas. Mais comment accédera-t-il Jésus à l'horreur de la croix après? Car les tentations de Satan, elles sont destinées à saper la mission de Jésus-Christ, dont l'apogée sera la crucifixion et la résurrection. Alors si Jésus s'amuse à se faire protéger alors qu'il sauterait du haut du temple, et si sur la croix Dieu ne vient pas le secourir, qu'est-ce que cela voudra dire? Que Dieu s'est trompé? Que Dieu cette fois-là n'est pas assez puissant pour le sauver? La leçon que Jésus nous donne porte encore une fois sur un autre besoin humain, le désir de reconnaissance. Satan lui proposait à Jésus qu'il soit éclatant que Jésus était le Fils de Dieu. Du haut du temple, et sur le haut temple, il y avait foule. Que ce Jésus apparaisse à tout le peuple comme porté par les anges. Mais rendez-vous compte, quelle soif de reconnaissance Jésus aurait pu avoir et à laquelle il aurait pu céder. Tous les hommes me verront, et les femmes sur le parvis des femmes, parce que les hommes et les femmes n'étaient pas dans la même cour devant le temple, et on me verra porté par les anges, et on saura que je suis Dieu le Fils, Jésus le Messie, et on m'acceptera. Quelle tentation énorme à laquelle Jésus a résisté. Besoin de reconnaissance, besoin d'être reconnu. Besoin d'être pris en compte. Que faisaient les nazis lorsqu'ils arrêtaient les juifs et qu'ils les promettaient à la mort dans leur camp d'une basse barbarie? Ils les tatouaient avec un numéro. Ils leur refusaient le statut d'être humain. Que faisaient les esclavagistes européens lorsqu'ils allaient capturer des Africains pour les emmener en esclavage? Ils les tatouaient d'un numéro pour leur retirer leur existence humaine. C'était la manière de bafouer pleinement le besoin de reconnaissance que nous avons tous, et c'est légitime. Et Jésus avait aussi ce besoin en tant qu'être humain. Mais il a accepté de ne pas être reconnu comme le Fils de Dieu. Nous voulons être reconnus comme de belles personnes, les uns intelligents, les autres racés, les uns généreux, les autres pleins d'humour. Nous avons nos techniques, conscientes ou pas, pour attirer l'attention. Jésus, dans des circonstances plus lourdes, plus graves, nous montre que cela ne compte pas. Prenons garde, en effet, à satisfaire nos besoins de reconnaissance trop rapidement, à trop vouloir prouver qui l'on est. On fait des bêtises, et Jésus en aurait fait une s'il avait accepté la proposition de Satan. On se montre, on se vend, on séduit, on surjoue, on cherche l'approbation. La peur du rejet nous conduit à la manipulation, à l'hypocrisie, la flatterie et que sais-je. Nos blessures de rejet, notre soif de reconnaissance peuvent trouver, ceci dit, dans la foi en Jésus-Christ, une réponse utile. Tu es une créature aimée de Dieu, même si tu souffres d'être peu connu ou reconnu par les autres. Dieu porte sur toi un regard aimant. Il te connaît par ton nom. Je me souviens avoir lu chez un médecin une phrase que je n'ai pas notée, donc je la déforme à chaque fois que je la cite. Les gens bien n'ont pas besoin d'être quelqu'un, pour être heureux. Soyons des gens bien, qui ne courent pas toujours après la reconnaissance. Et Jésus nous en a montré un exemple poignant dans cette deuxième tentation. En tant que chrétiens, nous pourrions être tentés par ce désir d'être reconnus comme des gens très inspirés, des citoyens exemplaires, des collègues formidables, des gens très spirituels, des connaisseurs de la Bible, etc. Attention, il y a une différence entre aimer les personnes, et c'est là le commandement de Dieu, et le désir d'être aimé par elles. Et puis j'arrive à la troisième tentation, celle qui s'est mal terminée pour le diable, puisqu'il s'est fait éconduire. Va-t'en, Satan. Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit « Va-t'en, Satan, car il est écrit « C'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras, et c'est à lui seul, que tu rendras un culte. » L'orgueil, proposition alléchante. Si on garde la première partie, tout va bien. Je te donnerai tous les royaumes. C'est comme si on me proposait de gagner au loto sans que j'aie à y jouer. C'est l'idéal. Ou alors je joue une fois et je gagne tout de suite. Le monde, le pouvoir, la domination, le désir d'être plus grand, plus fort, plus beau, plus riche, plus intelligent, nous l'avons tous. D'une manière ou d'une autre. C'est l'orgueil qui se glisse dans nos pensées. Cet orgueil qui est un glissement si facile de la fierté. On passe si facilement d'une très naturelle et noble fierté d'être à l'orgueil. Et qu'a fait Jésus devant cette tentation de Satan? Il l'a refusé tout net. Alors là, il n'a pas cité de verset, il a tout de suite dit « Ça suffit, j'en ai marre, va-t'en !» Se prosterner devant Satan aurait équivalu à nier sa propre divinité. Sa mission aurait alors perdu toute valeur. Pour nous, la leçon que nous donne Jésus est simple. L'orgueil peut nous faire perdre notre âme. Il faut une réponse énergique. L'orgueil se tapit partout dans notre vie. Devant le miroir, peut-être, pour certains. Au travail. Et là encore, entre la fierté et l'ambition, la différence est parfois difficile. Entre la fierté et l'orgueil, et entre l'ambition et l'orgueil aussi. Dans l'Église. Mieux connaître sa Bible que l'autre, avoir plus de fonctions, de capacités, de charisme. Va des rétro, Satanas. Stop! Car il n'y en a qu'un que nous devons adorer, c'est le dernier verset que cite Jésus. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. N'oublions pas que nous sommes, en tant que peuple, en tant que chrétiens, nous sommes des gens heureux, nous sommes des gens bénis, nous sommes des gens aimés, nous sommes des frères et des sœurs. Mais c'est à cause de Dieu. C'est Dieu qui est notre Créateur, c'est vers lui que se tournent nos chants de louange. Je conclus avec une question toute simple. Qui sommes-nous pour parler de ce merveilleux récit? Qui suis-je pour parler de ce merveilleux récit de la tentation au désert? Jésus nous montre dans le dénuement qu'il est parfait, qu'il a déjoué tous les pièges de Satan. Là où Jésus est passé sans même trébucher, nous nous tombons. La tentation au désert montre la perfection de Jésus et par contraste nous renvoie à nos imperfections. En préparant ces quelques mots, j'ai pensé à mes problèmes à moi en me disant ben là Jésus a réussi et moi pas. Et peut-être que vous avez fait de même pour d'autres, vous vous êtes dit ben là Jésus a réussi et moi pas. Que cela nous fasse méditer sur nous-mêmes, nous fasse saisir la grâce de Dieu, du pardon, de cette capacité qu'a Dieu à nous redonner sans se lasser, toujours un nouveau départ. Et que cela nous encourage à faire de mieux en mieux. Le récit se termine bien. Le diable, une fois parti, les anges vinrent et le servirent. N'oublions pas l'issue de notre vie. Non pas que les anges viendront nous servir, mais qu'il y aura une fin à cette période de lutte intérieure qui est parfois difficile, lourde. Il y aura une fin. Et Jésus nous emmènera dans la maison du Père. Je vous invite à prier. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous aimes et parce que tu as envoyé Jésus, ton Fils, homme parfait, Fils de Dieu. Nous te remercions parce qu'ainsi il a pu nous guider et il le fait encore, parce qu'il a pris sur lui nos fautes pour les expier et qu'il nous donne un exemple qui nous fait réfléchir et qui, j'espère, nous fera avancer cette semaine. Seigneur, que ce récit de la tentation de satisfaire trop facilement les besoins du corps, la tentation de vouloir être reconnu à tout prix, la tentation de vouloir être le plus grand au risque d'y perdre notre âme, que ces tentations, nous arrivions nous aussi à les déjouer. Nous te louons, Seigneur, et nous te prions de veiller sur nous. Amen.